Et si on explorait une ville d'une manière un peu différente, pas avec un guide touristique classique,
Ah oui, c'est-à-dire...
en plongeant directement dans ses archives, mais à travers le regard de passionnés.
D'accord, je vois l'idée.
Et pour ça, on a un document formidable aujourd'hui. C'est un bulletin du Carto Club Aveyronnais.
Ah, l'histoire locale par les cartes postales anciennes.
Exactement. Et je dois dire que le travail de Guy Mazars, qui est le rédacteur en chef et qui fait la mise en page, il est absolument remarquable.
Tout à fait.
Notre idée, c'est donc de brosser un portrait de Villefranche de Rouergue en s'appuyant sur trois articles de ce bulletin.
Trois angles pour une seule ville.
Voilà. On va voyager un peu dans le temps, dans l'espace, pour comprendre comment la ville s'est construite, comment elle vivait.
Et comment elle a basculé dans le XXe siècle.
C'est ça.
Et ces trois regards, en fait, ils se complètent parfaitement. On va commencer par une sorte de promenade, non?
Oui.
Une promenade géographique et historique, avec l'article de Patrick Cabande, de rue en rue, entre le pont du Cala et la côte de Macao.
D'accord.
Ensuite, on plongera dans ce qui a été le moteur économique de la ville pendant plus de 650 ans.
Ah oui, quand même.
C'est l'article Villefranche de Rouergue et ses moulins. Et pour finir, on fera un arrêt sur image.
Un instantané.
Exactement. Un instantané de la vie en 1913, grâce aux recherches de Gilbert Regour.
J'aime beaucoup cette idée de croiser les perspectives.
Mais oui, c'est ça qui est passionnant. On va voir comment la géographie a façonné l'économie et comment tout ça, cette structure socio-économique, se voyait dans la vie des habitants, juste avant le grand bouleversement mondial.
C'est qu'une véritable coupe transversale d'une cité.
C'est ça.
Alors, allons-y. Commençons cette balade avec Patrick Cabandé. Il nous propose un itinéraire qui part d'assez loin, en amont de la ville.
Au pont gallo-romain du Cayla, c'est ça, hein?
Exactement. Et de là, on suit la rivière, l'Aveyron. C'est vraiment elle qui mène la danse. Il décrit d'ailleurs son confluent avec l'Alzou, qu'il qualifie de rivière torrentueuse. On sent tout de suite la force de l'eau.
On imagine.
Et en arrivant dans la ville, on voit tout de suite comment elle s'organise autour de cette rivière. Il y a les ponts. Le pont des Consuls, qui est l'ancien pont vieux, maintenant il est piéton, et puis le pont neuf, plus moderne.
L'image classique, oui. Mais ça montre bien que la rivière, c'est à la fois une artère. Et une frontière.
Une barrière à franchir.
Absolument. Et ces ponts, ce ne sont pas que des ouvrages d'art. Hein. Ce sont des points de contrôle, des lieux de pouvoir. Le nom même, pont des consuls, ça nous dit tout.
Ah oui, c'est vrai.
C'est le symbole de l'autorité municipale qui maîtrisait les flux, les marchandises, les gens. La rivière, c'est pas juste du paysage. C'est l'épine dorsale sur laquelle tout s'est développé.
En poursuivant l'itinéraire de Patrick Cabande, on arrive sur le boulevard du Guiradet. Et là... on change d'échelle.
On passe à une autre forme de pouvoir.
Oui, il y a cet imposant palais de justice construit en 1861. Il est devenu l'hôtel de ville bien plus tard, dans les années 70. Mais la bâtisse est énorme. Qu'est-ce que ça nous dit de construire un bâtiment aussi massif à cette époque?
C'est une façon pour l'État de dire « je suis là ». C'est exactement ça. Au XIXe siècle, le palais de justice, c'est le symbole par excellence du pouvoir régalien. L'État central qui impose sa loi partout.
Tout est fait pour impressionner.
Tout. La masse, le style néoclassique, tout est là pour affirmer l'autorité. Et ce qui est intéressant, c'est ce que l'article décrit juste à côté.
Oui, il y a le monument aux morts de la guerre de 1870, mais surtout, là où il y a la Banque de France aujourd'hui, il y avait un hôtel très chic, l'Hôtel de France Orcibal.
D'accord.
Et juste derrière, les manufactures d'une famille, les Cibielles. L'auteur les qualifie de négociants fortunés très influents dans la vie politique villefranchoise.
Et voilà. Là, on a une véritable carte des pouvoirs qui se superposent dans la pierre.
C'est fascinant.
Vous avez le pouvoir de l'État, avec le palais de justice, le pouvoir financier qui s'installe avec la Banque de France, et le pouvoir économique et politique local avec cette famille Cibielle.
Qui n'était pas seulement riche, donc.
Non, il tenait la mairie, les mandats de députés. Le paysage urbain n'est jamais neutre, en fait. C'est le reflet des hiérarchies. Chaque bâtiment, c'est une page d'histoire politique.
Donc, se promener dans la ville, c'est lire une carte des pouvoirs. J'aime beaucoup cette idée.
C'est un peu ça.
Et cette rivière, qui a dessiné les rues, elle n'était pas qu'un obstacle, c'était un moteur.
Le vrai cœur économique de la ville.
Et ça, ça nous amène directement au deuxième article, à cette histoire incroyable des moulins.
Une histoire de plus de 650 ans, c'est ça, hein? Mais la Bastide est fondée vers 1252 et la première trace écrite d'un moulin, c'est 1346. C'est dire si c'est ancré dans l'ADN de la ville.
Mais pourquoi une telle concentration ici? Qu'est-ce que Villefranche avait de si particulier?
Alors là, c'est un véritable jackpot géologique.
Ah bon?
Oui, l'article l'explique très bien. La ville est située sur ce qu'on appelle une faille majeure. C'est un point de contact entre deux terrains très différents.
D'accord.
Les plateaux calcaires d'un côté et le socle cristallin du massif central de l'autre. Et cette faille, elle crée une pente, une déclivité énorme.
C'est ça qui donne la puissance à l'eau.
Exactement. Le plateau du Ségala domine la ville de plus de 240 mètres.
240 mètres? C'est une sorte de château d'eau naturelle géant, en fait.
C'est l'image parfaite. Une source d'énergie hydraulique inépuisable et gratuite. Et les chiffres de l'article sont... Enfin, ils sont stupéfiants.
Alors, dites-moi.
On parle de 25 moulins recensés au total.
25?
15 sur l'Aveyron et 10 sur les petits affluents. Mais c'est la densité qui est folle. Tenez-vous bien, sur une portion de rivière de seulement 4,5 km en amont de la ville, il y avait 8 moulins.
8 moulins sur 4,5 km. C'est presque un tous les 500 mètres.
C'est ça. On imagine une véritable zone industrielle à ciel ouvert. Le bruit, l'activité...
Mais 25 moulins, c'est beaucoup plus que ce qu'il fallait pour nourrir juste la ville, non?
Ah bah évidemment. C'est la preuve que Villefranche n'était pas du tout repliée sur elle-même. C'était un centre de transformation majeur.
Pour toute la région?
Probablement pour tout l'ouest de l'Aveyron, oui. Cette densité, elle implique une production agricole énorme dans l'arrière-pays et un vrai rôle de carrefour commercial. La ville transformait les grains et sûrement d'autres produits avant de les exporter.
L'eau, c'était le pétrole de l'époque.
C'est exactement ça. Le moteur d'une économie prospère.
On a donc une ville façonnée par sa géographie, une économie puissante. Et maintenant, à quoi ressemblait la vie des gens qui habitaient là, juste avant les grands bouleversements?
Et on arrive au troisième article, celui de Gilbert Régour. Une plongée, il y a 100 ans à Villefranche-de-Rougues, en 1913.
1913, un moment charnière.
Complètement. On est encore dans la belle époque, mais on sent partout des craquements. Une tension entre un monde ancien qui s'accroche et la modernité qui déboule.
Ça se voit très bien dans les transports. La ville est reliée par le train, ça c'est moderne. Mais pour aller dans les villages à côté...
C'est encore le cheval?
Attendez, je lis le chiffre, c'est incroyable. Il fallait 4h30 pour faire les 30 km jusqu'à Rignac.
4h30? On a du mal à imaginer. C'est à peine plus rapide que de marcher.
Ça change complètement la perception de l'espace, du temps... 30 km, c'était un vrai voyage.
Et on comprend le choc qu'a dû être l'arrivée des premiers autobus que l'article mentionne.
Ah oui, les Cors la Licorne de Monsieur Ferral.
Rien que le nom est poétique.
On assiste vraiment à la collision de deux mondes. Le rythme lent du cheval contre la promesse de vitesse du moteur.
On imagine les discussions au Café du Commerce.
Et cette animation, cette richesse, on la retrouve aussi dans la vie sociale. Les foires, par exemple. Ça semble être le cœur battant de la cité.
Au point de bousculer le calendrier religieux. Et l'anecdote citée par Gilbert Regourde est savoureuse.
Racontez.
L'évêque de Rodez autorise officiellement les habitants à ne pas faire maigre quand un jour de foire tombe un vendredi.
C'est dire l'importance de l'événement.
L'économie prime sur le dogme, ça en dit long.
Et la vie associative a l'air incroyablement dense, il y a de tout. Une société musicale, les troubadours villefranchois.
Oui.
Des sociétés de secours mutuelles, une loge maçonnique, la cordialité. Et même une jeunesse libérale et catholique. Chaque courant de pensée a son lieu de rencontre.
C'est le portrait d'une société très structurée, très organisée, presque compartimentée.
Les catholiques d'un côté, les républicains de l'autre.
Les francs-maçons. Chacun a son réseau. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir ce qui les unit par-dessus tout.
Le patriotisme.
Le patriotisme. Le répertoire des troubadours villefranchois est très révélateur. Il joue la marche gauloise, le chœur des soldats de l'opéra Faust.
Un répertoire très martial, en effet. C'est presque une préparation des esprits à ce qui va suivre.
C'est ça, sans qu'ils le sachent. On entretient cette culture de la patrie, de la défense nationale, qui va trouver un écho tragique à peine un an plus tard.
Et l'article nous y amène de façon poignante, avec un détail d'une simplicité glaçante.
Le club de sport.
Oui. Le Stade Villefranchois. Il n'arrive pas à former une équipe de football-rugby pour la saison 1913-1914.
Et pourquoi?
Parce que trop de joueurs sont appelés à la caserne. C'est tout simple, mais c'est terrible. La guerre n'est plus un concept, elle touche la vie quotidienne.
Et la raison, elle est concrète. Le service militaire vient d'être allongé à 3 ans. Cet automne-là, en France, ce sont 180 000 jeunes hommes de plus qui partent sous les drapeaux.
Ce ne sont plus des statistiques, ce sont les joueurs de l'équipe locale, les jeunes du coin.
C'est l'histoire avec un grand H qui fait irruption dans la vie du village.
Le chroniqueur du journal local, Henri Brumand, il pose la question que tout le monde se pose en octobre 1913.
Oui.
Je cite « La guerre est-elle prochaine? Est-elle même possible ?» C'est la question que tout le monde se pose maintenant.
La réponse, malheureusement, on la connaît.
Si on rassemble toutes les pièces de ce puzzle, quelle image se dessine au final? J'ai l'impression d'avoir vu trois villes en une.
C'est exactement ça. On a d'abord la ville de Pierre et d'eau, de Patrick Cabande, celle qui est sculptée par sa géographie. Puis, la ville laborieuse et prospère des Moulins, dont l'économie a été le fruit de cette géographie pendant des siècles.
D'accord.
Et enfin, la ville de 1913 de Gilbert Regour, une société vibrante, riche de ses débats, de sa culture, qui est le produit de cette longue prospérité.
Et tout s'emboîte parfaitement. Les rivières qui ont creusé les vallées sont les mêmes qui ont fait tourner les 25 moulins.
Et cette puissance économique a permis l'émergence de cette vie sociale intense en 1913.
Et toute cette vitalité, toute cette histoire locale, elle va être fauchée en plein vol?
C'est ça qui est vertigineux. Tout s'enchaîne logiquement. La géologie, l'économie, la société. Jusqu'à ce que le cours des choses soit brutalement interrompu.
Et le signal avant-coureur, c'est pas un grand discours politique?
Non, c'est une chose toute simple. Une équipe de rugby qui ne peut pas se former. C'est l'histoire globale qui dévore l'histoire locale.
Et ça nous laisse avec une dernière pensée, peut-être? En voyant comment cette communauté, avec ses traditions, ses projets, son élan vers la modernité, a été happée par l'histoire? On peut se demander quels sont les signes aujourd'hui dans nos propres communautés, peut-être aussi discrets qu'une équipe de sport qui manque de joueurs, qui pourraient être vus dans un siècle comme les prémices de changements tout aussi profonds.